France Culture, l'esprit public, Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, que dit l'affaire Epstein de l'état de nos démocraties ? Nous serons avec le politologue Gérard Le Gall, la magistrate Magali Lafourcade, l'économiste Jean-Marc Daniel et le directeur de Sciences Po Lille, Étienne Perra. Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
This isn't about Democrats versus Republicans or about Congress versus the President.
Il ne s'agit pas des démocrates contre les républicains, ni du Congrès contre le président. Il s'agit de donner au peuple américain la transparence qu'il réclame depuis si longtemps. Il s'agit de tenir responsables toutes les personnes du cercle de Jeffrey Epstein qui ont violé, manipulé, ciblé et permis l'abus de centaines de jeunes filles pendant des années.
Le sénateur de l'État de New York, Chuck Schumer, chef de file de la minorité démocrate à la Chambre, le 19 novembre 2025, lors d'un vote crucial. À la quasi-unanimité, le Congrès américain adopte alors le Epstein Files Transparency Act, la loi qui demande au département de la justice la mise en ligne de tous les fichiers en sa possession liés au prédateur sexuel milliardaire Jeffrey Epstein, poursuivi pour trafic sexuel et mort en 2019. Une onde de choc dévoilée au monde entier le 30 janvier dernier. Plus de 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 photos qui fascinent, dégoûtent, donnent le tournis et sont en ce moment même scrutées par les journalistes du monde entier, même si tout le monde peut y avoir accès. Et déjà, les premières secousses. Ici en France, la démission de Jack et Caroline Lang de l'Institut du Monde Arabe et du Syndicat des producteurs indépendants. Le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale après des révélations de Mediapart puisées dans ses fichiers. Le Quai d'Orsay est éclaboussé par l'un de ses diplomates concernés. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot saisit la justice sur le sujet. Le parquet de Paris a annoncé samedi 14 février avoir désigné des magistrats référents pour se plonger dans tous les cas français potentiels. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer voit son siège vaciller car il a nommé Peter Mandelson, ambassadeur aux États-Unis, en connaissant ses liens avec Epstein. Le diplomate démissionnaire est accusé d'avoir transmis des informations économiques européennes confidentielle au milliardaire américain. D'excuses publiques en démission, l'Europe est touchée de la Norvège à la Slovaquie et si la plupart des secteurs financiers, politiques ou culturels sont bien concernés, il ne s'agit pas de toutes les élites de la planète qui y seraient mêlées. Alors deux vertiges, l'impression d'une toile d'araignée géante où toute personne citée serait coincée sans bien identifier leurs liens entre elles et le millier de victimes potentielles concernées, bien souvent oubliées. Peut-on d'ores et déjà analyser les conséquences de ce scandale sur nos vies démocratiques ? On en parle ce matin avec vous, Gérard Le Gall. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un politologue, spécialiste des élections et des études d'opinion. Avec vous également, Magali Lafourcade. Bonjour.
Bonjour Astrid de Villaine.
Magistrate, présidente de l'Institut français des droits et libertés, votre dernier ouvrage, La justice en procès, les populistes à l'assaut de l'état de droit, est paru en janvier aux éditions Les Petits Matins. J'accueille Jean-Marc Daniel. Bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite à l'USCP Business School, vous êtes l'auteur de Nouvelles leçons d'histoire économique chez Odile Jacob. Et enfin, Étienne Perra, bonjour.
Bonjour.
Directeur de Sciences Po Lille, historien des relations internationales. Un mot d'abord sur la méthode. Le Parlement américain exige du ministère de la Justice qu'il publie des documents issus d'enquêtes judiciaires ou policières. Ça nous pose beaucoup de questions en termes de séparation des pouvoirs. Est-ce un procédé habituel, Magali Lafourcade ?
Alors, on a connu beaucoup de procédés sous forme de leaks, vous savez, des fuites. Avec donc des dossiers qui sortent là, c'est vrai que c'est un procédé assez inhabituel et qui a été forcé par le Congrès qui, dans une rare ambiance proche de l'unanimité, a forcé la main du président Trump. Mais ça a l'air d'être un acte de transparence, mais ça n'est pas vraiment un, à mon sens, puisque il n'y a que la moitié des fichiers qui ont été diffusés. Donc 3 millions, vous l'avez rappelé, donc de tout type de fichiers sur 6 millions. Il y a aussi des noms qui ont été cavardés de manière excessive, en tout cas sans qu'il y ait l'application juste de la réglementation à ce niveau. Donc on peut avoir des gens qui peuvent être protégés encore par ce caviardage. Et puis, il y a des noms de victimes qui auraient dû être caviardées, parce que là, des informations d'intérêt public doivent quand même aussi protéger la vie privée des victimes. Et donc, ces noms ont fuité. Et on ne sait pas si c'est de la pure incompétence, de la négligence, qui pourrait s'expliquer aussi parce que, par le fait qu'énormément de très bons agents de l'État ont été démissionnés, licenciés à la suite de la politique du Doge menée par Elon Musk, ou si c'est une volonté de peser sur certaines personnes qui pourraient témoigner, et donc dans une logique de silenciation. Donc là, tout reste ouvert. Et on voit que Trump, en fait, fait de la transparence un argument fort. Il a voulu publier des choses sur l'assassinat de JFK, il a publié des choses sur Luther King, sans que ça change rien, d'ailleurs, aux informations centrales. Et il lui-même nourrit un complotisme, puisque dans sa campagne, c'était un de ceux qui disait que Epstein avait été tué en prison, par exemple. Donc, il nourrit ce complotisme, et ce discours qui était aux marges vient maintenant au centre. Mais donc, cette apparence de transparence, elle vient là, dans le cadre de la stratégie de Steve Bannon d'inondation de la zone, hein, il le disait de manière un peu plus vulgaire que ça, en balançant énormément de noms, énormément d'os à ronger, et le temps que tout ça soit épluché, fait qu'on oublie un peu Trump, qui pourtant apparaît massivement dans ces dossiers. Mais ce qui va être intéressant pour nous, c'est que Epstein, on sait qu'il avait un domicile à New York, qu'il avait son île, mais il avait aussi un domicile à Paris de presque 800 mètres carrés. Beaucoup de choses le ramènent à la France. Ghislaine Maxwell est française, elle est française, britannique, américaine, elle est née à Paris et surtout la France, hein, c'est le pays de la fête, hein, mais c'est aussi le pays de la mode. Et donc il y a énormément d'agences de mannequinat, énormément, c'est une plaque tournante de très belles femmes qui viennent pour les défilés de mode, et on voit que à travers ces dossiers Epstein, il y a sûrement énormément de choses à découvrir concernant les liens avec la France et de potentielles victimes, puisqu'il s'agit de faits qui se sont déroulés sur plus de 20 ans. On évalue à peu près un millier de personnes qui pourraient être victimes, et surtout des enjeux financiers extrêmement importants.
Étienne Perra, peut-on faire confiance au département de la justice américain, incarné par la ministre Pam Bondi dans ce dossier, notamment pour compléter ce que vient de nous exprimer Magali Lafourcade, parce qu'on a appris également que des noms parfois sont retirés, des fichiers sont retirés. C'était par exemple le témoignage très intéressant de Laurence Haïm. Elle était vendredi invitée de notre confrère ici, François Saltiel, dans le podcast La Fabrique de l'Information. Elle exprimait que quand elle commençait à confronter des personnalités, par exemple françaises, d'un coup, les mails disparaissaient.
Je pense que, comme le rappelait Magali Lafourcade à l'instant, et il suffit pour ça de regarder l'audition qu'il y a eu il y a quelques jours de Pam Bondi, effectivement, comme attorney général devant le Congrès, c'était
ça
une audition...
Ça veut dire procureur général des États-Unis.
Voilà, c'était une audition extrêmement violente, où elle est attaquée d'ailleurs aussi bien par les démocrates que par les républicains, ce qui renvoie à ce qui a été dit à l'instant sur le fait que finalement se retrouvent autour de cette affaire des gens qui peuvent attaquer, alors soit évidemment pour les démocrates, une dénonciation de l'incompétence en partie produite par les mesures prises par l'administration Trump depuis plus d'un an du département de la justice, qui se retrouve privé d'un certain nombre de figures. Du côté des républicains, cette ambiguïté avec quand même toute une partie des républicains, d'ailleurs certaines des altercations entre Pam Bondi et les membres du Congrès se font avec des républicains qui l'attaquent sur certaines choses. Et ce qui est intéressant en face, c'est de voir à quel point quand même Pam Bondi, dans une audition de ce type, est vraiment mise en difficulté. Alors, elle a une certaine assurance qui est aussi assez incroyable quand on le regarde, c'est-à-dire que quand elle est attaquée sur la présence de Donald Trump dans les fichiers sur telle ou telle chose, elle répond en disant que le Dow Jones est à son maximum, et elle le répète pendant des minutes et des minutes. Elle attaque les gens en leur disant vous êtes un avocat raté, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc elle a évidemment un style qui est le style trumpiste de manière très évidente, alors même que il semblerait qu'elle soit quand même aussi un petit peu sur la sellette au sein de l'administration Trump, Donald Trump ayant quand même un respect assez relatif pour les membres de sa propre équipe. Donc je pense que de ce point de vue-là, on voit bien qu'on a quelque chose qui n'a pas du tout désamorcé les critiques contre le département de la justice, au contraire, et on ne voit pas très bien comment il aurait pu en être autrement, dans la mesure où finalement la situation de départ était une situation où Trump avait ses contradictions sur ce qui était dit concernant les fichiers Epstein. Et je pense que de manière plus générale, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur une affaire qui, comme vous l'avez rappelé au début, touche potentiellement un nombre de pays assez énorme et qui les touche à chaque fois avec des configurations différentes. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, la question qui va être mise en avant, par exemple celle de Peter Mandelson, est une question aussi sur la forme, sur la fourniture d'informations avec des choses assez surréaliste, où Peter Mandelson, quand il est dans le gouvernement de Gordon Brown, tient quasiment Epstein au courant en direct, alors avec des formules là aussi assez fleuries concernant Gordon Brown au moment où le gouvernement est en train de tomber, et donc avec finalement des formes de trahison, quasiment de secret politique ou de gouvernement en train de se faire et de se défaire. Et chaque pays va être touché différemment par les conséquences de ces dossiers.
Jean-Marc Daniel.
Oui, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est effectivement le côté inondation de l'information. On est submergé et on a du mal à faire le tri entre trois thèmes. Il y a quand même trois thèmes dans cette affaire. Il y a l'affaire monstrueuse de pédopornographie et de pédocriminalité. Il y a les affaires mondaines, c'est-à-dire la famille royale de Norvège, le frère du roi d'Angleterre, qui quand même aussi est impliqué dans l'aspect pédocriminel. Et puis, il y a l'aspect strictement économique, c'est-à-dire effectivement, ce personnage, c'est un personnage qui est présenté comme ayant brillamment réussi en tant que financier. Or, pour moi, il est le symbole de ce que j'appelle la rente de l'imposture. Vous savez, en économie, on met en avant l'évolution de la rente, des gens qui sont en capacité de faire fortune sans avoir en face un effort sous forme de travail, sous forme d'engagement sur l'avenir. Et donc, au 19e siècle, la rente, c'était la capacité à avoir des terrains plus fertiles que les voisins. Au 20e siècle, c'était la capacité à avoir des monopoles et à obtenir des autorités publiques la protection sous forme directe ou indirect de sa production. Et là, je trouve qu'on a une évolution de la société au travers de ce qu'on appelle la financiarisation du capitalisme vers la rente de l'imposture. C'est-à-dire des gens qui affirment un certain nombre de choses, qui bricolent leur CV. Regardez, simplement Epstein, moi je l'appelle Epstein, on l'appelle Epstein ou Epstein. Bon.
Et donc, nous on dit Epstein parce que je crois que c'est lui qui disait lui-même Epstein, deux fonctionnent.
Oui, toujours est-il que on dit il est milliardaire. Mais quand on regarde sa fortune, il est entre 560 et 600 millions. Il n'est pas totalement milliardaire.
Alors c'est marrant que vous disiez ça, j'ai vérifié en effet aujourd'hui, tout le monde dit milliardaire.
On le présente mathématicien quand on regarde sa vie. Il a été collé aux examens de mathématiques, il a été recruté par une université, même pas une université, une école privée, pour faire des cours de soutien, et il a été licencié au bout de 2 ans parce qu'il n'avait pas le niveau. Et donc en permanence, il a vécu sur une présentation sur de lui-même, et ça se génère pas mal. C'est-à-dire que vous avez quand même aux États-Unis, indépendamment de ça, toute une campagne sur le plagiat à l'université, sur les doctorats qui ont été plus ou moins achetés, sur la façon dont l'imposture est en train de se généraliser. Et pour finir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois la justice est passée à côté de cet aspect imposture. Il avait été impliqué dans la faillite d'une entreprise, Tower Financial Corporation, dont il était un des principaux conseillers, un actionnaire, et il avait mis en place un mécanisme de Ponzi. Et donc, à l'époque, c'était avant qu'on découvre Madoff, qui est aussi dans le même veine. Madoff, il n'y a pas la pédocriminalité, mais il y a exactement le même mécanisme d'imposture financière, de prétendre avoir un CV qui n'est pas la réalité du CV, de prétendre avoir des savoir-faire et des compétences qui ne sont pas au rendez-vous, et en réalité, de mettre en place des escroqueries d'une banalité tout à fait consternante. C'est-à-dire, un mécanisme de Ponzi, Ponzi, c'était quelqu'un du début du XXe siècle, et on sait faire ça régulièrement. Et donc, je trouve assez frappant que cet aspect-là du dossier ne soit pas véritablement mis en avant, parce que pour moi, c'est quand même une perversion de l'économie et de ce capitalisme que je défends qui est assez inquiétante. C'est-à-dire l'invasion par la rente de l'imposture de notre vie quotidienne.
Gérard Le Gall.
Moi, je vais monter un peu en généralité par rapport à des spécialistes du droit et des débats parlementaires. D'abord, c'est une affaire hors norme d'un acteur central qui est amoral. Moi, ce qui me frappe, c'est son amoralité. C'est frappant. Et dans son instrumentation de l'autre, pour le pervertir et pour subvertir le système. Voilà un certain nombre d'éléments généraux que je souhaiterais commencer. Quelques rappels aussi. Il y a eu un petit débat pour savoir si c'était principalement américain mais médiocrement français. Non, enfin c'est global. Néanmoins, c'est une affaire américaine. Et quand on écoute des débats, ce qui n'est pas mon cas, mais tels que je les ai entendus au second degré, il y a un renvoi au macartisme des années 50, c'est-à-dire la chasse aux sorcières. Et entre avocats aux États-Unis, on choisit Et on utilise le McCarthyisme pour montrer qu'il ne faut pas essayer trop rechercher entre les uns et les autres. Ça rappelle le Watergate. Les deux acteurs principaux dans l'affaire, c'est quand même un ancien président de la République et un deuxième actuellement en poste. Et donc, ces deux grandes affaires qui, je ne suis pas un spécialiste de l'opinion des États-Unis, doivent travailler quand même les superstructures mentales du pays. Alors, une affaire européenne, oui. Dimension française, oui. Mais convenant, et sans rentrer trop dans les détails, qu'à ce stade, il n'y a pas de percussion du système démocratique. Peut-être que dans les semaines ou les mois à venir, on va découvrir des choses, mais c'est pas de cet ordre. En revanche, les deux éléments constitutifs des désirs de l'homme et de la femme, à savoir le sexe et l'argent, sont convoqués dans cette affaire. D'où un intérêt considérable de l'opinion à cet égard, mais dans une opinion qui est tellement saturée d'opinion, 77% des gens pensent qu'on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, et je pense que cette affaire convoque à la fois le vrai dans ce que l'on sait en certitude et le faux dans ce qu'on devine mais dont on n'a pas la preuve. Et donc il y a ces dimensions-là, et par ailleurs, donc, je rappellerai quand même qu'en France, il y a eu des affaires qui ont concerné directement la sphère étatique. Je rappellerai les balais roses. C'était quand même le président de l'Assemblée nationale, dénommé Le Troquer. Et puis, dans les années 50-60, enfin début 59, c'est Le Monde qui l'avait révélé. Avec là aussi des jeunes filles adolescentes et des hommes politique et pas seulement là. Je rappellerai l'émission d'Apostrophe quand même, c'est-à-dire toutes les affaires qui structurent un champ qui est déjà préparé. Apostrophe, la pédocriminalité, enfin la pédo en tout cas certainement criminalité par rapport à Maznev, et l'émission d'Apostrophe en 1990. L'affaire d'Outreau, là c'est pas que les élites, c'est des pratiques incestueuses et autres, etc. Et puis surtout, le rapport de Jean-Marc Sauvé, 216 000 victimes. Donc tout cela est un arrière-fond de la sensibilité française par rapport à cette question du sexe. Vous avez parlé tout à l'heure de l'argent.
Du sexe ou des abus sexuels, en l'occurrence.
Oui.
Magali Lafourcade, de votre avis là-dessus, et peut-être est-ce que pour vous ça va creuser, c'est ce qu'on entend beaucoup hein, dans la conversation publique, le fossé entre le peuple et les élites, je mets les deux concepts entre guillemets.
Je voudrais justement répondre à ça avec cette phrase de Cicéron, est-ce une affaire de gouverner les autres pour qui sait se gouverner lui-même? Et ça revient exactement à ce que disait tant Jean-Marc Daniel que Gérard Le Gall, c'est que nous sommes dans la question de la maîtrise de soi, et donc on attend des élites qu'elles aient une certaine maîtrise. Or, il y a la dimension sexuelle qui concerne pas, bien sûr, pas tous les gens qui sont cités, loin s'en faut, heureusement, dans les dossiers Epstein. Et puis, il y a la pyramide de Ponzi, ou le schéma de Ponzi social, qui est extrêmement intéressant, parce que dans cette amoralité que Jean-Marc Daniel évoquait, on voit qu'il n'y a pas seulement l'aspect de domination pédocriminelle, mais il y a aussi le fait que Epstein a beaucoup aidé les élites russes à contourner les sanctions après l'invasion de la Crimée. Il y a le chantage qu'il faisait puisqu'il truffait sa maison de vidéos, etc. Donc il a fait du chantage sur un certain nombre de personnes, de personnalités. Il y a l'aide à l'évasion fiscale. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui n'a pas de morale à tous les étages. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas ça pour moi qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aller au-delà et dépersonnaliser le sujet. C'est-à-dire que le dossier Epstein, il met une lumière crue, comme d'autres affaires, vous parliez, Gérard Le Gall, du rapport Sauvé. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'architecture sociale qu'il y a derrière, c'est-à-dire une endogamie, un entre-soi extrêmement malsain, de gens qui sont à l'interface de... Enfin, lui était à l'interface de plusieurs mondes, les financiers, les économistes, les politiques, les artistes, les intellectuels, les chercheurs, puisqu'ils s'intéressaient beaucoup aussi à la recherche scientifique. Et on voit qu'à travers ça, ce maillage qui est très réticulaire montre que le pouvoir, en fait, se diffuse partout par des relations de très très haut niveau. Il a été capable de mettre Noam Chomsky en lien avec Steve Bannon, alors qu'on voit pas du tout quelle conversation ces deux hommes auraient pu avoir, et puis manifestement, ça s'est très bien passé. Donc, tout ça révèle que ça révèle une architecture des liens d'entre-soi, du fait qu'on dépasse complètement les clivages politiques quand on se retrouve dans son jet, et tout ça devrait être un fait politique. C'est-à-dire que on peut traiter ça d'un point de vue judiciaire. Moi, en tant que magistrate, je trouve que ce qu'on découvre sur la façon dont a été traitée l'affaire de prostitution de mineurs en 2008 pour Epstein est assez scandaleuse. Il semble qu'il était condamné qu'à 18 mois de prison après un plaidé coupable et qu'il aurait fait que 13 mois par des accointances politiques. Donc il y a cette dimension-là. Et puis, donc pour moi, il y a une défaillance de la justice américaine. Ensuite, il y a la question médiatique, mais il y a aussi la question politique. C'est-à-dire qu'il faut que chacun... La Norvège veut mettre en place une commission parlementaire. Ce serait intéressant aussi que notre débat public dépersonnalise tout ça. Aujourd'hui, on a jeté en pâture Jacques Lang et Caroline Lang. Il y a une pipolisation du sujet. En fait, il faut aller au-delà et voir qu'est-ce que ça dit du fait qu'on a des élites qui sont dans un monde extrêmement fermé, des super élites, les très 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 riches, les très très puissants. Et ça, je crois que ça devrait être analysé politiquement et de manière sereine, puisque de toute façon, pour avoir la vérité, ça va prendre énormément de temps, parce qu'il va falloir contextualiser, recouper tout ça. Si c'est pas gagné, d'y arriver tout de suite.
Jean-Marc Daniel.
Moi, ce qui me frappe au stade de ce débat, c'est d'abord le fait que, finalement, encore une fois, à la fois sur le plan financier, il était assez banal dans sa façon d'agir. C'était donc des pyramides de Ponzi. Et sur le plan des relations humaines, c'était tout flatteur vu aux dépens de celui qui l'écoute. Enfin, ça dépassait pas la fontaine. C'est-à-dire, il allait voir les gens et puis il les flattait, il les accueillait, il les recevait avec beaucoup d'ostentation. Et c'est la capacité, effectivement, à séduire les gens et l'incapacité qu'a une certaine société à mesurer la réalité des gens qu'elle a en face d'elle. Et puis, la deuxième remarque, par rapport à ce qu'a dit Gérard Le Gall, par rapport au Watergate, à l'époque, l'affaire était menée par le Washington Post. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est de faire le parallèle entre le Watergate Washington Post et le Washington Post d'aujourd'hui. Le Washington Post d'aujourd'hui est au bord de la cessation de paiement, et le Washington Post d'aujourd'hui est en train de se replier sur un noyau dur dont on ne sait pas très bien de ce quoi il sera constitué. Et donc, on rejoint ce que je disais aussi sur l'imposture, c'est-à-dire que les lieux où normalement on devrait traiter l'information, normalement on devrait acquérir une certaine légitimité pour faire le tri, pour effectivement résister à cette inondation que nous avons subie, et tout ça, ces lieux sont menacés. Et c'est ça, à mon avis, qui menace la démocratie, c'est-à-dire le fait que on conteste le savoir universitaire, on remet en cause les résultats des climatologues.
Ça dit également sur le capitalisme mondial, parce qu'il y a énormément d'informations dans ces fichiers qui concernent le monde économique. On parle beaucoup, par exemple, de ces sociétés offshore, de potentiels délits d'initiés. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences là-dessus ?
Alors, je pense pas qu'il y ait véritablement de conséquences immédiates, parce que les vraies conséquences, elles auraient dû être tirées après la crise et la récession 2008-2009. Et donc, dans ces événements, je maintiens le véritable choc, ça a été Madoff, c'est-à-dire le symbole de ce qui était devenu à partir des années 1980-1990 le capitalisme. C'est Madoff qui l'a mis en avant. Et la conclusion qu'on devrait tirer, c'est que toutes les politiques qui ont été menées, les politiques monétaires qui ont été menées, qui ont consisté à répondre à toute crise par une émission de monnaie, par une injection de capitaux. On parlait d'inondation, vous avez une formule célèbre de Jacques Rueff qui dit « Ils ne savent faire qu'une chose, c'est faire pleuvoir sur des terres inondées » à propos des politiques économiques qui sont mises en place à partir du choc pétrolier. Et je pense que effectivement ces politiques économiques ont généré une sphère financière, une bulle financière qui est énorme, avec des placements, et des placements qui vont se porter non plus sur le système directement productif comme l'était le capitalisme industriel des années 60-70, mais vers des bulles. Alors, je ne sais pas à combien va se terminer le Bitcoin, c'est-à-dire on était à 125 000 il y a 6 mois, on est aujourd'hui aux alentours de 70 000 dollars. Je ne sais pas à combien va se terminer l'or, parce que l'or monte, mais il fut une règle autrefois, qui était une règle qui se voulait de bon sens, qu'une once d'or valait 12 fois plus qu'une once d'argent. Vous regardez le rapport à l'heure actuelle, on est très très loin de cette règle qui avait été établie par Newton lui-même. Donc c'était quelque chose que l'on devait révérer. Donc vous avez un mécanisme de spéculation derrière tout ça, et je rappelle là aussi une formule célèbre de Maurice Allais qui disait, quand on est dans une situation où il n'y a que de la spéculation, l'investisseur disparaît. Et parce que l'investisseur investisseur finit par devenir celui qui vend 10 minutes avant l'effondrement. Ce n'est plus quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a de la chance. Et donc, à partir du moment où l'investisseur devient un chanceux et pas un raisonnable, à ce moment-là, effectivement, le système a du mal. Donc, pour répondre à votre question, je pense que la vraie correction que l'on doit faire, c'est de réfléchir, mais alors c'est très en amont par rapport à ce qu'a été l'affaire Epstein, c'est à toutes ces politiques monétaires qui ont été mises en place au moment des chocs pétroliers, dans la foulée avec Greenspan, puis ainsi avec Bernanke, sur le fait que pour répondre à toute crise, uniquement, non pas par le travail, mais par l'inondation de terres déjà inondées.
Quelles conséquences peut-on entreapercevoir, à votre avis, Étienne Perra, sur notre vie démocratique ici en France? Et peut-être pour vous aussi, Gérard Le Gall, une dernière question. Qu'est-ce que ça nous dit aussi sur l'impunité? Un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est très frappant quand on se plonge dans ces mails. Toutes ces informations, tous ces mots, tous ces termes très dégradants vis-à-vis des femmes, notamment mineures, qui sont écrits en se disant qu'on ne sera jamais pris, en fait.
Moi, il y a un point qui rejoint ce qui était dit sur la question économique et aussi ce que Magali Lafourcade disait tout à l'heure, que je pense très important et qui doit nous faire réfléchir. C'est que finalement, ce qui fait que cette affaire est devenue si proliférante, c'est notamment cet épisode quand même de l'accord, alors je ne sais pas comment le traduire en français, de non-poursuite, qui a été conclu il y a quand même maintenant quasiment une vingtaine d'années, à l'époque en Floride, c'est-à-dire que dès le début des années 2000, circulent, on pourrait dire, des rumeurs déjà dans un certain nombre de cercles. Et là, on se retrouve quand même avec cet accord assez incroyable qui est conclu avec quelqu'un qui à l'époque est procureur en Floride, qui ensuite va travailler dans l'administration Trump, va devenir secrétaire d'État au travail. Donc là aussi on retrouve un petit peu de convergence entre des sujets économiques et des sujets politiques. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important, et c'est aussi une des causes du scandale, c'est que finalement tous ces accords de non-poursuite, que d'ailleurs, mais je ne me prononce pas à la place des expertes en matière judiciaire ici, on importe plus ou moins en France avec différentes formes, ont pour principale conséquence de dire, au fond, on renonce à faire une enquête parce que la personne plaide coupable et donc on va considérer qu'elle est dans une démarche en partie peut-être de repentir ou qu'elle reconnaît des torts. La réalité, c'est que si à l'époque une enquête avait été faite, ça aurait très vraisemblablement permis d'exhumer toutes ces dimensions d'imposture qu'on a évoquées, toutes ces dimensions criminelles proprement, y compris sur les aspects sexuels, et que donc une des choses qui fait qu'on en arrive à une affaire si énorme, c'est qu'il y a ce raté initial qui fait qu'ensuite 15 années, alors une dizaine d'années en ce qui concerne Epstein lui-même, et puis au total quasiment une vingtaine d'années, se déroule. Et je pense que ça nous amène quand même à réfléchir à ces, comme disait Antoine Garapon dans un livre il y a quelques années, ces deals de justice qui se sont répandus vraiment en matière économique notamment pour gérer un certain nombre d'infractions commises par des entreprises ou par des individus qui, en plus, se déplacent sur ce terrain et qui font vraiment réfléchir aussi au rôle social de la justice et de la possibilité de purger ou pas des peines et de comprendre la réalité d'un phénomène aussi grave.
Pour être bien précise, est-ce que vous parlez de cette première plainte officielle contre Jeffrey Epstein pour abus sur mineurs de 14 ans en 2005, qui conclut un accord,
c'est
un
ça,
deal
en 2008, dont vous parliez en 2008. Exactement, ouais.
Gérard Le Gall.
Moi, j'aurais quelques nuances par rapport à ce qu'a dit Magali Lafourcade autour de l'instrumentalisation de ce qui n'est pas un concept, mais une vague notion qui s'appelle les élites, qu'on convoque en permanence et qu'on oppose au peuple. Alors moi, ce simplisme sociologique, je ne l'accepte pas, car je ne sais pas définir les élites. Et on en fabrique un objet, désormais, idéologisé dans le débat politique, et moi, je n'entre pas là-dedans. Alors, on pourrait argumenter plus longuement.
En tout cas, on peut peut-être se mettre d'accord, Gérard Le Gall, que les personnes dont on parle, qui sont citées dans ces différents degrés, dans ces fichiers, font partie d'une forme d'élite mondiale ou non ?
Non, pour moi, d'abord, j'ai une vision très restrictive, les élites. Pour moi, Epstein n'est pas une élite.
Toute société,
si j'ose dire, même, c'est une contre-élite. Ouais.
Toute société fonctionne avec des élites. Il y a très peu de sociétés qui sont sans élites. Ça, c'est pas un gros mot qu'il y ait des élites.
Non, d'ailleurs, on voulait peut-être le rapprocher du mot démocratie.
J'ai lu Moscou et Pareto, pas au début du XIXe siècle, mais je les ai lus après. Et je sais exactement, effectivement, le sens, l'origine et l'instrumentalisation du mot. Car si on devait définir les élites, pour moi, c'est quelqu'un qui transforme le paradigme. C'est quelqu'un dont le nom restera deux générations après lui. C'est ça les vraies élites. Après, on galvaude le mot, on essentialise le mot, et puis on en arrive à des manipulations. Je ne dis pas que c'est de votre côté, hein, mais ça induit quelque chose de l'ordre de la manipulation pour l'opposer au quoi ? À un peuple qui, lui, serait pur, serait, etc. Donc, moi, je n'entre pas dans ce débat-là.
Mais quelle grille
d'analyse ? Et d'ailleurs, j'observe que ça nourrit ça nourrit le populisme. Bah,
c'est la base du populisme, hein, d'opposer
exactement.
Alors, quelle grille d'analyse, si vous la refusez?
Alors, à moi, la grille d'analyse, c'est comme toujours le respect des faits. Le respect des faits et de quoi parlent les faits. Et là, je suis d'accord avec vous quand il s'agit de... Alors, la notion de fait politique qu'il faudrait définir, mais néanmoins, je rentre dans le dévoilement, le signifiant de tout ça. Alors là, je crois qu'il y a un gros travail à faire sur le signifiant. Mais pour moi, c'est aussi un signifiant politique et un signifiant sociétal. Et les deux sont confondus intrinsèquement. D'ailleurs, je pense que quand vous dites fait politique, vous pensez aussi fait sociétal.
Étienne Perra, d'un mot.
Ouais, juste pour dire que je ne suis pas totalement en accord avec ce que Gérard Le Gall disait là, puisque les élites, je partage tout à fait le fait que c'est une notion qui peut être instrumentalisée avec des visées populistes ou avec différents éléments. Mais les élites, c'est un objet de sociologie qui n'est pas un objet simple. Qui est un objet discutable, de dire où, comment est-ce qu'on définit une élite, et l'élite, vue de tel ou tel prisme, peut toujours être interrogée. Mais je pense que là, ce qui est un vrai objet de sociologie des élites, justement, c'est la manière dont différents secteurs économiques, politiques, mondains, on en parlait tout à l'heure, vont se connecter, et qu'il y a un vrai élément de réflexion qui peut pas être traité avec l'urgence ou les enjeux qui sont ceux d'une actualité, mais que derrière, on peut faire des sciences sociales sur les élites, sur l'affaire Epstein, sans que ça soit utilisé par un tel ou un tel.
D'un mot.
Oui, juste un mot. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne dit pas l'élite, on parle les élites. Ce qui veut bien dire qu'il y a plusieurs façons d'appartenir à l'élite. Je ne sais pas si la future reine de Norvège, si tant est qu'elle arrive à devenir reine de Norvège, fait partie de l'élite économique, elle fait partie quand même d'une forme d'élite quand même.
Bien c'est entendu.
Quelqu'un dont on
Merci
parle.
Merci Jean-Marc Daniel. Vous êtes professeur émérite à l'ESCP. Étienne Perra, qu'on vient d'entendre, directeur de Sciences Po Lille. Magali de Lafourcade, magistrate. Et le politologue Gérard Le Gall, restez avec nous pour la deuxième partie de l'Esprit public.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Que ça vous plaise ou non, vous n'avez pas gagné les dernières élections présidentielles, monsieur Gillet. Voilà. Deuxièmement, vous n'avez pas de majorité absolue, vous n'avez pas de majorité tout court dans cette assemblée. Vous n'avez pas de majorité tout court dans cette assemblée, et donc je vous invite à respecter, là encore une fois, le pouvoir de nomination du président de la République. Et je vais vous dire, pour ma part, je suis extrêmement fière que le président de la République ait choisi une femme compétente, première femme à devenir présidente de la Cour des comptes. Une personnalité politique et qu'on assume comme étant politique de grande qualité, qui a largement démontré encore une fois ses compétences, sa capacité de dialogue avec l'ensemble des partis et des groupes politiques présents dans cette assemblée, son respect du Parlement, et je vous le redis, vous savez comment fonctionne la Cour des comptes. La Cour des comptes fonctionne avec une collégialité, et c'est cette collégialité qui permet de garantir l'indépendance et l'impartialité du fonctionnement de la Cour. Voilà.
La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, mardi 10 février à l'Assemblée, lors de la séance de questions au gouvernement, elle répondait au député Rassemblement National du Gard, Yoann Gillet, qui n'est pas le seul parmi les oppositions à s'émouvoir du décret pris en Conseil des ministres le lendemain, mercredi 11 février, pour nommer la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, première présidente de la Cour des comptes, après le départ de Pierre Moscovici. Elle doit entrer rue Cambon le 23 février. Ministre du budget en exercice, le choix interroge pour celle qui devra juger des budgets qu'elle a elle-même composés. Mais pas de garde-fou ni de limite prévue dans le temps. Elle peut aller jusqu'à ses 68 ans sans contrôle du Parlement. Une nomination qui pose question alors que d'autres postes clés sont à pourvoir par le plus grand des hasards. La vice-présidence du Conseil d'État, vacante en mai du fait du départ à la retraite de Didier Roland Tabuteau, ou, avec un peu d'avance, pour le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, quitte son poste un an avant l'échéance. De quoi voir pour l'insoumis Éric Coquerel un cadenassage des institutions indépendantes en vue de 2027. Qu'en pensent les Français? Dans un contexte où ils ont de moins en moins confiance dans leurs responsables politiques, le baromètre du Vipov paru cette semaine est formel, c'est encore pire que l'an dernier. 76% des Français interrogés par Opinionway pour le quotidien Le Monde estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien en France. C'est 5 points de plus que l'année dernière. 22% ont confiance dans la politique, 4 points de moins que l'an dernier. Mais ils sont toujours 82% à plébisciter le système démocratique. Ce type de nomination aggrave-t-elle la défiance politique ou sont-elles légitimes et classiques? On en parle ce matin avec Gérard Le Gall, politologue
politologue, spécialiste des élections et des études d'opinion. Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP. Votre dernier livre paru chez Odile Jacob, Nouvelles leçons d'histoire économique. Magali Lafourcade, toujours avec nous, magistrate, présidente de l'Institut français des droits et libertés. Votre dernier ouvrage, La justice en procès, les populistes à l'assaut de l'état de droit au petit matin. Et Étienne Perra, directeur de Sciences Po, l'historien des relations internationales. Gérard Le Gall, vous qui avez le recul sur la vie politique française, est-ce nouveau de nommer autant comme le fait Emmanuel Macron en fin de mandat, ou est-ce toujours le cas en fin de règne ?
En écoutant le petit débat là qui introduisait notre question, je me disais que c'est bien de ne pas avoir de mémoire. Ça rend fort. Mais quand on convoque la Ve République, mais antérieurement, et pour les historiens, les temps anciens, le népotisme, les préférences du proche par rapport au plus lointain, etc., ça fait partie de l'anthropologie ancienne et très moderne. Bon, alors, d'ailleurs, moi, de par mes accointances politiques, avec quelques distances, mais...
Vous avez été longtemps au Parti Socialiste.
Oui, j'ai eu des responsabilités au secrétariat du Parti Socialiste, effectivement, et membre de cabinet ministériel à plusieurs reprises, au ministère de l'Intérieur et autres. Mais c'est pas tellement par rapport à cela, c'est quand même que l'accentuation des nominations par le président de la République, c'est François Mitterrand, qui, avant les élections de 86... pour préparer la suite, voyant que la gauche serait battue, a pris dans l'ordre juridique du Premier ministre une partie de ses propres pouvoirs, si j'ose dire, pour la mettre à l'Élysée. Donc tout ça... la vraie question, c'est... Bon, en dehors de la polémique dans laquelle je ne m'entrerai pas, la vraie question, c'est quelles alternatives au système actuel, c'est-à-dire qui va nommer le président de la Cour des comptes. Et moi, je trouve, alors quand même, d'abord courageuse la nouvelle présidente, parce que moi, j'ai regardé les débats parlementaires quand même. C'était pas facile, et cette jeune femme, je l'ai trouvée courageuse et surtout compétente. Deux qualités qu'il faut pour être magistrate, et elle sera magistrate à la Cour des comptes. Et d'autre part, je trouve que c'est une ouverture dans une institution. C'est bien qu'il n'y ait pas un membre de la Cour des comptes qui préside la Cour des comptes. Et j'aimerais qu'on fasse ça dans d'autres institutions, c'est-à-dire faire circuler la diversité des expériences pour nourrir une institution. Moi, je salue cela. Et maintenant, puisque vous avez évoqué, alors, très rapidement, à moins que je reprenne la parole, à travers l'enquête que Astrid Le Villaine vous avait évoqué précédemment, moi je tirais deux enseignements principaux. Le premier, c'est que nous vivons dans une ambiance pré-illibérale, et deuxièmement, que les Français semblent tirer leçon de l'effroyable dissolution du 9 juin 2024 au regard de leur conception du parlementarisme. Premièrement, sur l'illibéralisme, je crois que... Et je précise que, dans le petit exposé que je vais faire, je n'induis pas une prospective électorale pour 2027. En d'autres termes, l'illibéralisme grimpe dans la société, mais je ne pense pas pour autant qu'il y aura un président de la République illibéral en 2027. Ça, c'est une conviction que je pourrais nourrir. Alors, pourquoi illibéral ? Bon, un Français sur deux sont partisans de la peine de mort, presque, hein, 48-49%, et ce, de manière récurrente, alors qu'il y a eu une rupture de ce besoin il y a quelques années. Deuxièmement, une vision quand même majoritairement critique de la justice en tant qu'institution et en tant que principe principaux, si j'ose dire, de la justice elle-même. Une sensible majorité de citoyens qui jugent qu'il y a trop d'immigrés en France. Et surtout, par rapport à la société ouverte ou société fermée, chère à Bergson, à Popper et à quelques autres, là, on voit bien que c'est le désir d'une société fermée qui est important.
Restant sur la nomination de Amélie de Montchalin, est-ce que ça peut, puisque c'est le lien qu'on peut faire,
ajouter en fait à la défiance, au manque de confiance, à ce qu'on peut parfois entendre, la République des copains, Jean-Marc Daniel.
Alors, ce qui me frappe, c'est que, comme l'a dit Gérard Le Gall, ça a toujours existé. On parlait donc sous la Ve République. Je rappelle quand même que Philippe Séguin a été nommé à la tête de la Cour des comptes. Certes, il était sorti de l'ENA à la Cour des comptes, mais il avait été ministre. Que Pierre Joxe a été nommé à la tête de la Cour des comptes.
Ministre de la Défense.
Oui, et donc lui, on ici.
Ministre du Budget, on ne l'avait jamais vu quand même.
Ministre du Budget, on ne l'a jamais vu, mais il y a Pierre Arpaillan qui a été nommé à la tête de la Cour des comptes aussi, qui était ancien ministre de la Justice et dont les compétences financières n'étaient pas évidentes. Ça s'est très bien passé, il n'est pas resté très longtemps. Je parle en présence d'une magistrate.
Notamment au Parlement.
Il est bon. Donc, et dernier élément, il y a, parmi les anecdotes célèbres sur Clémenceau, il y en a une où il est reçu par le président de la République de l'époque, qui s'appelle Armand Falière, qui lui dit, donc il l'accueille, il y a l'apéritif qui est là, il lui dit, qu'est-ce que vous prenez? Et Clémenceau répond, les places, toutes les places. Bon, donc c'est une pratique qui est une pratique, je dirais presque républicaine. Alors après, sur le fond, il y a deux choses qui me frappent dans le débat. La première chose, c'est effectivement, les gens tiennent des propos sur la Cour des comptes qui montrent qu'ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne, ni à quoi ça sert, notamment les parlementaires. Je mets en exemple le fait que la Cour des comptes prépare une loi, qu'on appelait autrefois la loi de règlement, qui s'appelle la loi de résultat de gestion et d'acceptation des comptes, et elle a été refusée systématiquement par le Parlement depuis 4 ans. Et donc, à chaque fois, la Cour des comptes envoie un certain nombre de propositions en disant, vu la situation des finances publiques, vu la façon dont a été géré le budget jusqu'à présent, voici quelques propositions. Le Parlement rejette la loi tout de suite, sans même regarder ce qu'il y a dedans, sans même se poser la question de savoir si on peut améliorer la gestion des finances publiques, au simple fait qu'il n'y a plus de majorité au Parlement pour soutenir le gouvernement qui est en place. La deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, on peut s'interroger sur la durée qu'il va avoir devant elle, Amélie de Montchalin, dont je crois que personne ne peut contester la compétence, le sérieux, la rigueur à la fois intellectuelle et morale. Mais la question qui se pose, c'est ces emplois, ces postes où on est ad vitam aeternam, au nom de la nécessité de garantir l'indépendance, est-ce qu'il ne faut pas limiter dans le temps la durée des mandats et de remise en cause? Bon, donc la Banque de France a été à une certaine époque... On était ad vitam aeternam, là maintenant il y a une durée du mandat de la Banque de France, donc est-ce qu'on pourrait pas se poser cette question? D'autant plus que, là aussi je parlais des républicains anciens, dans le programme initial de la Troisième République, il y avait l'élection des principaux responsables, notamment effectivement des magistrats de la Cour des comptes et des conseillers du Conseil d'État. Mais on ne l'a jamais mis en pratique, on a même créé une institution... Pour faire ça, ça s'appelait l'ENA. Donc la question qui se pose, c'est effectivement comment on sélectionne nos hauts fonctionnaires, quel mandat on leur donne, quelle est la durée qu'on leur donne pour remplir ce mandat. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener derrière tout ça, indépendamment du poste de premier président de la Cour des comptes.
Magali Lafourcade.
Mais il y a aussi la question des contre-pouvoirs qui se posent. J'abonde tout à fait à ce qu'a dit Jean-Marc Daniel, bien sûr. Hein. Mais donc, quand on voit l'enquête du CEVIPOF, c'est plutôt un baromètre de la défiance hein, que de la confiance. Les chercheurs du CEVIPOF l'ont dit eux-mêmes, on a atteint un stade qui est extrêmement critique. Et le fait de nommer des politiques à des fonctions de contrôle ou des fonctions juridictionnelles, c'est extrêmement risqué dans ce contexte-là, même si j'ai aucun doute sur la compétence, moi non plus, enfin je partage complètement, Madame de Montchalin est extrêmement compétente, elle a sûrement une déontologie forte, néanmoins, quand on regarde la loi de 2013 qui a été votée après l'affaire Cahuzac, où on avait un ministre du budget qui avait un compte en Suisse, qui a choqué énormément l'opinion publique, cette loi sur la transparence de la vie publique définit ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. C'est toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influer ou paraître influer, l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que même si l'institution financière est collégiale, même si elle est composée de magistrats qui ont une forte déontologie, on a à la tête de cette institution une personne qui passe directement de ministre des comptes publics à chef de la juridiction financière qui va devoir quand même porter la parole de l'institution. Et il y aura toujours ce soupçon-là. Donc, pour Madame de Montchalin, la compétence n'est pas en jeu, la morale non plus, c'est juste cette apparence de conflit d'intérêts qui est vraiment critique. Mais on a eu avant Richard Ferrand. Richard Ferrand, là, c'est peut-être le président du Conseil constitutionnel le plus mal nommé. C'est-à-dire que le seul contre-pouvoir qu'il y a, puisque pour la nomination à la juridiction financière, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est l'article 13 qui s'applique donc de la Constitution.
Et le président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Et pour le Conseil constitutionnel, on peut faire obstacle à une nomination à une majorité du Parlement de 3/5. À une voix près, et grâce au fait que les élus nombreux du Rassemblement national se sont abstenus, à une voix près, ils ne pouvaient pas être choisis. Donc, dans ce cas-là, on a une fragilisation puisqu'on a un président qui est mal choisi. On a des questions sur sa... Il y a eu des questions sur sa moralité. Il a bénéficié d'une prescription, mais donc dans une affaire de probité. Et puis, donc, il est innocenté, voilà, du fait de ce non-lieu pour cause de prescription. Et en plus, il y a surtout le problème de la compétence technique. C'est-à-dire que M. Ferrand n'est pas connu pour une activité en droit qui soit pointue, ni pour avoir été... Il a été 10 ans à l'Assemblée nationale, il a été rapporteur que de 2 lois. Et donc, surtout, juste après sa nomination, il y a eu une remise de décoration où le président de la République a rappelé leur amitié indestructible. Il me semble que c'était le mot qui avait été employé par Emmanuel Macron. Donc là, ça crée une impression de connivence à un moment où le Conseil constitutionnel est la clé de voûte de l'État de droit, où on a besoin qu'il y ait une autorité indiscutable de ses décisions. Donc c'est ça qui est problématique dans ce contexte particulier de défiance, même si on a toujours la tension permanente entre la légalité, c'est tout à fait conforme au droit, et la légitimité. Et je crois qu'il faut que les politiques, et en particulier les autorités de nomination, s'astreignent à une discipline dans ce contexte-là pour nommer des gens qui sont inattaquable.
Et la tradition, puisqu'on peut rappeler la fameuse formule de Robert Badinter, très proche de François Mitterrand quand il est nommé au Conseil constitutionnel, qui dit « Mon ami, merci de me nommer président, mais sachez que dès cet instant, envers vous, j'ai un devoir d'ingratitude. » Cette formule qui revient souvent. Peut-être que la question qui se pose, c'est aussi que prépare Emmanuel Macron pour la fin, puisqu'il ne sera plus aux manettes l'année prochaine. Étienne Perra, deux réactions qu'on a pu entendre ou lire cette semaine. Le rapporteur général du budget LR au Sénat, Jean-François Husson, qui parle d'un choix qui n'est pas disruptif, mais destructif pour les fondations de notre République, mélange des genres dangereux qui fragilise la séparation des pouvoirs. Quant à Marine Le Pen, elle y voit une nomination comme de Madame de Montchalin comme une énième preuve de la dérive illibérale d'un régime agonisant, prêt à toutes les transgressions éthiques pour placer ses fidèles et perturber la future alternance démocratique.
Je pense que les questions qui peuvent être soulevées, elles sont audibles quand on est notamment dans les dernières semaines d'un mandat présidentiel où... Et ça s'est déjà passé à l'occasion des années passées. Il y a des nominations qui arrivent et où, pour le coup, sur un plan notamment éthique, moral, on peut s'interroger sur la volonté de faire passer un certain nombre de choses dans les derniers jours, véritablement, d'un mandat. Je pense que le fait que, à peu près un an et demi avant une échéance présidentielle, il y ait des nominations, on ne va pas demander au président de la République d'arrêter son mandat 2 ans et demi avant la fin en disant que sinon il est en train de préparer la suite. Par contre, je pense que ce qui soulève une vraie question qui est dans la lignée de ce qu'évoquait Magali Lafourcade, c'est la définition même de ce pouvoir. Et je voudrais juste citer, parce que c'est un sujet qui n'a pas forcément été très, très travaillé, mais il y a une thèse de droit public qui a été soutenue il y a maintenant 10 ans à l'Université Paris 1 par une juriste qui s'appelle Lucie Sponchiado sur la compétence de nomination du président de la République, qui est une thèse vraiment super, j'en fais la pub.
Qui est d'ailleurs disponible en ligne de mémoire.
Qui est disponible en ligne dans sa version initiale et qui est très intéressante. Déjà, c'est une thèse qui porte sur la compétence de nomination. Donc pas le pouvoir de nomination, parce que ce qui l'intéresse, c'est de se dire, le président de la République, effectivement, article 13 de la Constitution, a une compétence de nomination. Cette compétence, on peut s'interroger sur le fait de savoir s'il l'exerce personnellement, uniquement, ou s'il n'y a pas aussi une question un peu plus large, qui est notamment la compétence du Conseil des ministres, puisque on l'a rappelé, c'est bien le Conseil des ministres entendu qu'ont lieu un certain nombre de ces nominations, des ministres ou du Premier ministre qui contresignent cela. Et en fait, ce qu'elle met en avant, c'est le fait qu'il y a une espèce de captation de ce qui était une compétence initialement vers un pouvoir où les présidents successifs, alors Gérard Le Gall en parlait tout à l'heure, évidemment, notamment fin des années 80, mais en fait, dès les débuts de la Ve République, il y a une loi organique, enfin une ordonnance même au tout début, qui ensuite est suivie par des décrets, qui font que le président de la République récupère de plus en plus de ses pouvoirs. Et c'est peut-être là aussi que, indépendamment du président Macron, plus largement, il y a une réflexion. C'est-à-dire, est-ce que les critiques du président Macron aujourd'hui nous disent « nous ne ferons pas comme ça ». quand nous serons au pouvoir. Nous aurons une vision plus collégiale, nous ferons les choses en conseil des ministres réellement. Et je pense que c'est ça la question qui peut nous intéresser toutes et tous par rapport à 2027.
Et je cite un extrait de cette excellente enquête parue il y a une dizaine de jours de Michaël Moreau. Sa Majesté nomme enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant. Il a vu énormément de monde, dont Arnaud Montebourg, qui nous dit « Il faut casser l'article 13. C'est un article délirant. C'est au ministre de nommer ses directeurs, pas à un autre. Pourquoi le président de la République s'occupe de la comédie française ? Pas étonnant qu'il y ait embouteillage à l'Élysée. » Gérard Le Gall.
Oui, non, mais tout ça, ce sont d'excellentes formules, mais je profite que vous donniez la parole pour la deuxième leçon des sondages, à savoir, alors, rappelons quand même l'engouement post-électoral en 2024, lorsqu'il n'y avait pas de majorité absolue. Mais c'est formidable, il n'y aura pas de majorité. Enfin, on rompt avec cette logique majoritaire, 1962. Alors, ce serait bien. En plus, ça va pousser au compromis entre les partis politiques. En plus, tout le monde va s'aimer à l'Assemblée nationale par des vrais débats profonds, articulés, légitimés par le talent oratoire de tel ou tel. Il reste que, dans l'enquête du Cevipof, et là j'y viens, 52% souhaitent qu'il y ait, dans une prochaine assemblée, une majorité absolue. C'est clair. Et d'ailleurs, ça renvoie à tous les bons apôtres qui ont fait une pétition récemment sur la proportionnelle, soit de préciser quel type de proportionnel il propose, soit tout simplement être sûr que s'il y avait une proportionnelle, quelle qu'elle fût, il n'y aurait pas de majorité absolue.
Jean-Marc Daniel ?
Oui, je voudrais réagir aussi au fait que, comme je le disais, avec l'ENA, on avait un moyen de sélectionner la haute fonction publique et on est en train... Moi, ce qui me frappe, c'est que non seulement ça a sélectionné la haute fonction publique, mais ça a sélectionné aussi la classe politique. Et donc, on est dans une situation où, quand on est fonctionnaire, on est élu. Si on cesse d'être élu, on redevient fonctionnaire. Quand on est agent du secteur privé, on est élu. Quand on cesse d'être élu, on ne redevient pas agent du... Et d'où cette réclamation, cette exigence d'un certain nombre de gens en politique d'être recasés. Et je crois qu'il y a un problème de différence de statut entre les gens qui font de la fonction publique, qui font de la fonction publique un tremplin pour devenir homme politique, et des gens qui, au contraire, eux, s'engagent en politique sur la base de convictions qui mettent en danger leur destin personnel.
Ce qui est très frappant dans cette enquête dont je parlais, Sa Majesté nomme, c'est qu'il évalue, ce journaliste Michaël Moreau, à environ 5000 nominations par le président de la République, tout en disant, si ça se trouve, c'est 10 000, on ne sait pas compter. Et quand on ne sait pas compter, on sait, hein, dans tous les domaines, c'est qu'en fait, on ne s'intéresse pas au sujet. Il y aurait peut-être une forme de réforme à faire, Magali Lafourcade.
Oui, je crois que ce serait intéressant, et surtout, je rebondis sur ce qu'a dit Étienne Perra tout à l'heure, cette compétence qui devient un pouvoir, et ça a été dit par beaucoup d'acteurs, notamment l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui dit que M. Macron s'y engage pleinement, il auditionne lui-même les prétendants et qu'il procrastine, ça fait un phénomène de cour. C'est tout ça qui est malsain, en fait.
C'est d'un pouvoir de domination.
Voilà, exactement. Et donc, je crois que les gens ne comprennent plus ça, parce que nous autres, le commun des mortels, quand on postule quelque part, eh ben, on présente son CV, on va... c'est transparent, il y a une offre de poste. Et dans la fonction publique, hein, maintenant, il y a des règles très strictes de non-discrimination qui fait que le poste doit être publié, vous devez montrer que vous avez auditionné des candidats, combien y avait-il d'hommes, de femmes, de personnes en situation de handicap aussi. Donc, pourquoi tout ça ne s'applique pas à tous ceux qui sont au sommet et qui devraient justement pouvoir prouver une autorité morale et une compétence? Il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'enquête de Mediapart là-dessus. Ils ont parlé de la nomination d'un monsieur, dont je ne citerai pas le nom, mais c'est un article de Clément Rabu et Antoine Rouget, nommé au tour extérieur à la Cour des comptes sur décret présidentiel en 2025, alors que ce monsieur était un député, déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel parce qu'il n'avait pas déposé son compte de campagne. Et il est à la Cour des comptes. Donc, c'est quand même très curieux. Et donc, on a cette suspicion de fait que vous êtes recasé. Et là, c'est un pantouflage politique public politique vers le public parce que vous avez pas été élu aux législatives, parce que vous êtes proche. Et quand la loyauté compte plus que la compétence ou la moralité, eh ben c'est la fin de non seulement de la République exemplaire, ça on le sait, mais c'est aussi la fin d'une de fonctionnalités démocratiques qui sont de qualité et d'une démocratie mature.
On pourrait imaginer, Étienne Perra, des annonces de postes, comme on le voit dans le privé, pour toutes ces nominations publiques. Par exemple, là, on va apprendre qui sera le prochain à l'Institut du Monde Arabe. Ce serait une bonne idée, selon vous, en quelques mots?
On pourrait imaginer, après je pense qu'il ne faut pas non plus passer sur quelque chose qui serait un petit peu utopique, de considérer que des dimensions politiques, des dimensions d'interconnaissance personnelle ne joueront pas. Mais je pense qu'entre le système actuel et un idéal vers lequel il faut tendre, même si on sait qu'on n'y arrivera jamais, il y a quand même un certain nombre d'évolutions qu'on pourrait mettre en œuvre.
Et il est déjà l'heure de passer à vos coups de cœur. Magali Lafourcade, magistrate, quel est votre coup de cœur du jour?
Alors moi justement, pour rebondir avec les deux sujets qu'on a traités aujourd'hui, je voudrais recommander le documentaire d'Arte qui est actuellement disponible, qui s'appelle Tax Wars, hein, qui est un peu sur le modèle de Star Wars et qui montre comment s'est construit dans le temps la fiscalité des multinationales et comment une commission faite de très très grands économistes du monde entier, une commission pour la justice fiscale, propose autre chose qui soit plus respectueux de nos principes auxquels nous sommes tous attachés, c'est-à-dire l'égalité, le bien commun et la lutte contre l'impunité.
Étienne Perra, directeur de Sciences Po Lille.
Si vous m'excusez et vous me permettez de faire le nordiste pendant quelques instants, je voudrais parler de quelque chose qui
bien
n'a
entendu,
rien
vous
à
êtes là pour ça.
Avec ce qu'on a évoqué. C'est juste pour dire que dans la semaine qui vient, ouvre à nouveau ses portes un musée qui est un musée d'art moderne qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq, donc pas loin de Lille, qui s'appelle le LAM et qui va réouvrir avec des collections qui sont assez incroyables, avec une exposition sur Kandinsky. Et en plus, maintenant, vous pouvez y aller en utilisant le métro avec de nouvelles rames qui ont été installées après 10 ans de feuilletons politico-industriels. Et donc, il y a vraiment deux excellentes raisons pour venir à Lille, pour venir à Villeneuve-d'Ascq et
merci
visiter cette exposition.
Merci pour cette recommandation. Étienne Perra, à vous. Gérard Le Gall, politologue.
Oui, par la montée de l'antisémitisme et la persistance multiséculaire des stigmates antisémites, j'ai pensé à Ilan Halimi, et puis... Par ailleurs, corrélativement, on a assez peu parlé des victimes, d'ailleurs, dans l'affaire Einstein, la causalité diabolique de Léon Poliakov qui montre, qui déconstruit la persistance du stigmate. Et donc, j'invite à lire Léon Poliakov.
Merci beaucoup. Et puis à vous, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, auteur de Nouvelles leçons d'histoire économique chez Odile Jacob.
Eh bien... Bien que je ne sois pas nordiste, puisque j'arrive de Bordeaux, et la dernière fois que vous m'avez convié, il y avait un représentant de Sud-Ouest qui était... Donc j'avais été très,
tout
très touché.
Tout à fait, nous aurons un article dans Sud-Ouest.
De ce
vous dévoilez tout.
Et donc... pardon. Donc je recommande la lecture d'un livre qui est une biographie de Gérard Mulier, donc le fondateur d'Auchan, et l'auteur c'est Margot Mulier, donc on peut se poser la question de savoir si cette homonymie est un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est sa petite fille. Et donc elle retranscrit une série d'entretiens qu'elle a eu avec son grand-père, qui raconte un peu sa saga personnelle et la saga de la famille autour de la marque Auchan. C'est à la fois très bien écrit, très agréable à lire, bourré d'anecdotes et pas systématiquement géographique. Donc je recommande ce livre.
Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été là pour l'Esprit Public. On mettra bien sûr, comme chaque semaine, vos coups de cœur sur le site et l'application Radio France. De mon côté, mon coup de cœur, c'est le complément d'enquête, Les Mystères de l'affaire Epstein, diffusé cet été et toujours disponible sur la plateforme de France Télévisions, signée Virginie Villard, qui raconte bien, on en parlait en première partie, comment on n'a pas fini, à mon avis, de soulever tout ce qui reste à soulever derrière cette enquête. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis comme tous les dimanches, d'avoir suivi l'Esprit Public. Je rappelle que cette émission est disponible sur le site et l'application Radio France ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, en direct à 11h pour un nouvel épisode. Très bel après-midi à l'écoute de France Culture.